Africa, le journal des auditeurs avec Stéphanie Hartmann sur Africa Radio.
Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle édition du JDA, l'actualité vue par les auditeurs d'Africa Radio. Aujourd'hui, pour la première édition de cette semaine, nous attendons vos réactions au premier tour justement de l'élection présidentielle en Tunisie. Les électeurs tunisiens étaient appelés aux urnes hier. Le taux de participation a été de 45% selon l'instance électorale, un peu moins. 20 points de moins qu'en 2011, à l'occasion de cette première élection post-révolutionnaire. Deux candidats ont revendiqué leur passage au second tour. Hier soir, l'homme des médias Nabil Karoui en prison et l'universitaire Kais Saied. Alors, deux candidats qualifiés d'antisystème. Qu'en pensez-vous? Peut-on parler d'une insurrection, d'une révolution dans les urnes en Tunisie? La Tunisie a-t-elle, avec ce premier tour, confirmé son ancrage démocratique? Nous en parlerons avec Emmanuel Dupuis, consultant en défense, sécurité et armement, président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Pour participer, appelez-nous dès maintenant au 33 1 55 07 58 00. Vous pouvez également demander à ce qu'on vous rappelle en envoyant un petit message sur WhatsApp. Le WhatsApp d'Africa Radio, c'est 33 7 66 19 77 69. 33 7 66 19 77 69. Mais avant cela, place sans plus tarder au répondeur d'Africa Radio.
Africa. Vous êtes sur le répondeur d'Africa Radio. Après le bip, c'est à vous.
Oui, bonjour à les auditeurs d'Africa numéro 1. Moi, j'appelle par rapport à la Côte d'Ivoire. Et j'ai constaté, je ne suis pas d'ailleurs le seul à le constater, dans le gouvernement en place de M. Ouattara, il n'y a que des nordistes. C'est-à-dire que des gens qui ne savent même pas lire, à qui on met, à qui on donne des responsabilités. Il y en a beaucoup comme ça en Côte d'Ivoire, parce qu'ils sont du Nord. Et moi, je trouve que ce n'est pas normal. Il faut de la compétence. Si on, quand on est compétent, on a sa place. On ne met pas des gens par amitié. Voilà. Et vous allez partout en Côte d'Ivoire aujourd'hui, il n'y a que des noms, des consonances qui viennent du Nord. Et ça, ce n'est pas normal pour un pays qui veut de la démocratie. Monsieur le Président de la République. Et en plus, ce que je veux vous dire, cher ami, auditeur de Africa numéro 1, Africa Radio, pardon, si c'est comme ça qu'on veut prôner, ou bien on veut faire l'émergence, comme le dit le président, mais la Côte d'Ivoire, Yako. Merci, au revoir.
Ma très chère Hartmann, bonjour. Il fait bon vivre en Côte d'Ivoire. Et la démocratie s'enracine de jour en jour sous le régime de M. Ouattara. Très bien. Ce week-end, le FPI et le PDCI on fait les manifestations dans la gaieté, dans la bonté, dans la convivialité. Et ça, je salue cela. Mais tout ça aussi, c'est à l'œuvre du président Ouattara. Parce que moi, je me souviens, il y a 10 ans en arrière, quand le RD demandait à faire une manifestation, soit on annulait la manifestation, on l'interdisait, et même lorsqu'elle était autorisée, on avait des morts, des blessés. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Je félicite encore une fois le président Ouattara. C'est un homme de paix et c'est un démocrate. Idriss, bonne journée.
Bonjour Africa Radio, bonjour chers amis auditeurs. Je tiens à remercier toute la jeunesse ivoirienne qui ont participé à notre rencontre hier, le RJCI. Je tiens vraiment à féliciter tous les membres qui ont effectué le déplacement de partout de la France pour venir assister à la réunion et que je vous dis merci et qu'on est ensemble, le combat continue, vive le RJCI, vive le président Ouattara, vive le gouvernement de Amadou Gonglou Bali. Je vous remercie.
Bonjour les frères et sœurs africaines, bonjour aux autres de la radio africaine. Et je voudrais tout simplement laisser ce petit message en disant que les chefs d'État africains n'ont pas pitié de leur peuple. Ils n'aiment pas leur peuple. Aujourd'hui, on entend trop le changement de la Constitution par-ci, par-là, mais pour faire quoi? Les chefs d'État africains doivent savoir que nos pays africains, on a un problème commun. Dans chaque pays africain, il y a au moins 2, 5, 6 ethnies. Donc, une ethnie qui est arrivée au pouvoir, il doit savoir faire deux mandats et il s'en va. S'il veut rester en changeant la constitution, ça va créer la frustration des autres ethnies. Donc les chefs d'État africains, aimez vos pays.
Oui, bonjour les auditeurs. Là, j'appelle, je suis Joseph. J'appelle pour un coup de gueule aux Camerounais et surtout aux gens du parti de Maurice Kamto, particulièrement. Je crois qu'après le discours du président de la République, M. Son Excellence Paul Biya, qui demande un dialogue. Le dialogue, c'est quoi? Il y a tout le monde dans le dialogue. On parle des choses qui doivent se faire et qui ne doivent plus se faire. Les gens se pardonnent. Le dialogue, c'est pour que les gens se pardonnent et qu'ils arrêtent avec les trucs. Les élections sont finies au Cameroun, hein, et qu'ils arrêtent de dire que Kamto a gagné les élections, Kamto n'a pas gagné les élections. Parce que s'il avait gagné les élections, je crois que le monde entier aurait dû à M. Biya de partir ou de refaire les élections. Alors, le monsieur qui est passé hier là, sur la chaîne, qu'il arrête déjà, il y a un manque de respect envers un président. On ne dit pas M. Biya, on dit le président Biya. Parce que quand on n'est pas président, il n'est que le président d'un parti. Et arrêtez. Merci et bon week-end.
Oui, et bonsoir monsieur dame, bonsoir les auditeurs de notre radio, bien sûr, radio africaine, c'est notre radio. Et voilà, et comme moi c'est Sissoko, j'ai toujours dit que la démocratie c'est pas bon en Afrique. Moussa Traoré, il a été déçu en Afrique et on a fait un coup d'état par le biais de monsieur Atété, uniquement qui a été monté pour descendre descendre monsieur Moussa Traoré, le général Moussa Traoré. Uniquement parce que lui, il a dit que la démocratie, c'est pas une camisole de force. Et voilà, la fille de ATT aujourd'hui, il est 10 fois plus riche que Moussa Traoré, le général qui s'est combattu depuis tout petit et a fait l'armée jusqu'à aujourd'hui. La fille de ATT qui est venue au pouvoir pendant quelques années, sa fille, elle est plus riche que Moussa Traoré. Est-ce que vous voyez? Donc, l'Afrique doit faire attention à la démocratie. La démocratie, ça ne convient pas à l'Afrique. Vous savez, en Occident, les pays occidentaux, ils ont échoué. La démocratie, maintenant, en Occident, c'est une coque. Vous voyez les élections? C'est une coque vide. Vous voyez les élections? En Occident, vous voyez? Il n'y a que des extrêmes. Les extrêmes, c'est quoi? Hein? C'est les correspondants des dictateurs. Des États-Unis jusqu'à l'Allemagne. Il y a des extrêmes qui gagnent. La démocratie, c'est fini.
Africa. Prenez la parole dans le JDA sur Africa Radio.
Merci à tous pour vos messages aujourd'hui dans le journal des auditeurs. Premier tour de l'élection présidentielle en Tunisie. 7 millions de Tunisiens étaient appelés aux urnes hier. C'est la deuxième élection libre, présidentielle libre depuis la révolution de 2011. Elle opposait 26 candidats. La participation était de 45,2%, indiqué l'ICIE. L'instance chargée des élections. Alors, quelles leçons tirer de ce premier tour? 33-1-55-07-58-00 pour participer. On en parle tout de suite avec Emmanuel Dupuis. Emmanuel Dupuis, bonjour.
Bonjour Stéphanie et bonjour aux auditeurs.
Merci de votre patience, Emmanuel. Je rappelle que vous êtes consultant en défense, sécurité et armement, président notamment de l'IPSE, l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Tout d'abord, première question, Emmanuel Dupuis, un mot avec le taux de participation. Hein. Il est donc de 45,2% pour ce premier tour. En 2011, hein, il était d'un peu plus de 60%. Est-ce qu'on peut dire que l'enthousiasme des électeurs tunisiens est retombé?
Alors, il y a évidemment à tenir compte de la faiblesse de la participation, hein, 62% comme vous l'évoquiez, à l'occasion du premier tour, et 60%. Néanmoins, il y a une petite différence, c'est qu'à l'époque, il n'y avait que 5 millions d'électeurs. Là, il y a 2 millions d'électeurs en plus. Donc, relativement, les deux chiffres, on a à peu près le même nombre d'électeurs en 2014 qu'en 2019. D'accord. Donc ça, c'est une première chose qui relativise un peu et qui permet de tasser un petit peu ce résultat. Mais néanmoins, cela prouve que ce qui s'est passé hier soir et qui risque de se repasser à l'occasion du deuxième tour qui devrait advenir d'ici le 23 octobre, qu'il y a un sentiment de ras-le-bol du système politique tunisien. D'une certaine façon, on peut parler d'un séisme. D'une certaine façon, on peut évoquer le fait que les deux candidats sont des candidats qui ne se ressemblent pas, mais qui ont au moins une chose en commun. C'est que ce sont tous les deux seuls, parmi les 24, parce que finalement, deux candidats se sont désistés au dernier moment, donc il y avait 26 bulletins de vote, mais seulement 24 candidats. Parmi les 24 candidats, c'était les deux seuls anti-système. Les autres représentaient d'une certaine façon...
Alors, je n'ai pas encore donné leur nom, mis à part tout à l'heure, mon cher Emmanuel. C'est Kais Saied et Nabil Karoui, qui tous les deux ont revendiqué être arrivés au second tour.
Alors, c'est effectivement pas tout à fait encore validé par l'ISI, donc c'est une instance supérieure indépendante pour les relations, pour les élections, mais tout le monde s'accorde à dire que Kais Saied, pardon, est arrivé de manière assez inattendue, et que Nabil Karoui, dont tout le monde disait qu'il pourrait être en tête, se retrouve finalement que second, avec peut-être 10% en moins de ce qu'il escomptait obtenir comme résultat. En tout cas, le simple fait que ces deux soient en tête, Kais Saied, pardon, avec pratiquement 19,5% en tout cas, sondage sorti des urnes, et Nabil Karoui avec 15,5, montre bien que tous les autres candidats ont été totalement laminés. Je rappelle que le troisième, le candidat Abdel Fattah Mulu, qui est le président par intérim de l'Assemblée nationale, candidat d'Ennahda, n'obtiendrait que 11%, et que les deux candidats gouvernementaux, l'actuel Premier ministre, et pour lui c'est un désaveu cinglant, Youssef Saïd, ne dépasse pas les 10%, avec 8%, et son ministre de la Défense, Sbidi, tangenterait autour des 10%. Donc on voit bien que ce qui s'est passé hier, c'est l'expression d'un ras-le-bol. Comme vous le disiez, la révolution remonte à 2011, la constitution et le nouveau système politique à 2014. Il ne s'agit que des deuxièmes élections libres depuis la fin du régime de Ben Ali, avec là aussi un calendrier électoral auquel personne ne s'attendait vraiment, car il a été provoqué par le décès du président Béji Caïd Essebsi. Et donc la précipitation, la panique des conservateurs, notamment du Premier ministre Youssef Saïd, qui, je le rappelle, est Premier ministre depuis 3 ans, avec un bilan économique absolument dramatique. Le taux d'inflation est de 7%, le chômage officiellement affiché que de 15% est en réalité deux fois plus important. Et puis bien évidemment, la dette a augmenté de 40% durant les 3 ans de sa primature. Donc on voit bien que c'est un cinglant désaveu de la politique menée par le gouvernement actuel, et que d'une certaine façon, les Tunisiens, mais ce n'est pas la première fois, à l'occasion des dernières élections municipales, en mai 2018, avaient déjà dit qu'ils voulaient se débarrasser du système. Et là, ils l'ont prouvé, même s'ils ne sont pas allés massivement aux urnes, mais ils ont prouvé qu'ils ont placé les deux candidats anti-système et les deux outsiders.
Et un rejet global de la classe politique traditionnelle. Alors justement, hein, on parle de Kais Saied et de Nabil Karoui comme candidats anti-système. Est-ce que, quel était à peu près leur programme à ces deux candidats? Ils ne sont pas tout à fait sur la même ligne, il me semble.
Ah, mais ils sont radicalement différents. Mmh. Alors, disons que Kais Saied, il faut apprendre à retenir son nom, est un nouveau venu dans la vie politique tunisienne. D'ailleurs, ce n'est pas un politique, c'est un universitaire, professeur d'économie, ancien doyen de la faculté de sciences économiques de Tunis. C'était avant tout un commentateur de la vie politique. Donc, il ne faisait pas partie du système, il dénonçait justement ce qu'il représentait, et notamment en évoquant le fait que depuis la révolution du jasmin, du printemps 2011, on était revenu en arrière et que d'une certaine façon, ceux qui étaient au pouvoir, je vais évoquer le nom de l'actuel Premier ministre Youssef Saïd, mais j'aurais pu évoquer le nom de l'ancien Premier ministre Mehdi Doma ou l'ancien président Moncef Marzouki, on avait une sorte de retour en arrière et une remise en cause des acquis de la révolution. Donc il ne cessait de dénoncer ce faux-semblant qui consisterait à dire que la Tunisie a évolué positivement depuis 2011. Et les critiques se font un petit peu plus précis sur son programme, qui est un programme de conservatisme religieux, et pour ne pas dire...
Il est plutôt favorable, par exemple, à la peine de mort. Il est plutôt favorable, par exemple, à la peine de mort.
Oui, absolument. Donc c'était une il y a eu d'ailleurs plusieurs manifestations dans les rues de Tunis à cet égard, et ce que je disais, c'est qu'il est dans un programme un petit peu plus radical, avec une proximité avec des mouvements salafistes. C'est une des raisons pour laquelle Ennahda ne l'avait pas endossé, car il y a une opposition frontale entre Ennahda, qui est un parti qui est en profonde reconstruction, avec de profondes dissensions, C'était un parti qui était idéologiquement focalisé sur l'islamisme intellectuel et qui, depuis quelques années, pour ne pas dire depuis les dernières élections municipales, s'est mué en un parti politique, avec la volonté d'occuper le terrain politique. C'est la raison pour laquelle, pour la première fois, il y avait un candidat à l'élection présidentielle, Abdel Fattah Mouloud, et pour la première fois, le propre président du parti, Ranouchi, sera présent à l'occasion des élections législatives le 6 octobre prochain, en se présentant à la députation pour obtenir la présidence de l'Assemblée des représentants du peuple. Maintenant, Nabil Karoui. Et Nabil Karoui a un parcours particulièrement intéressant. C'est un homme de médias. Mm-hmm. Il ne vient pas de la classe politique. Il a lui-même une télévision.
Nesma TV.
Et il est un des hommes les plus riches de Tunisie. D'ailleurs, c'est ce qu'il permet de prêter le flanc à des critiques comme quoi il fait de la politique pour favoriser ses affaires. D'ailleurs, il est accusé. Alors pour l'instant, il y a deux chefs d'accusation, mais aucune condamnation, précisément pour optimisation fiscale, pour ne pas dire évasion fiscale. Donc on lui reproche beaucoup, évidemment, le fait d'avoir réussi, nonobstant, ou à cause, ou depuis la Révolution. Et ce qui fait qu'actuellement, on est dans une situation absolument ubuesque, qui rappelle d'ailleurs ce qui était exactement le cas lors de la dernière présidentielle au Niger, où un candidat, à l'occurrence pour le Niger, c'était Mahamadou, se retrouvait en prison et pourtant qualifié pour le deuxième tour. Alors la vraie question, c'est est-ce que Nabil Karoui va être relâché ? Encore une fois, il y a deux condamnations, mais deux chefs d'accusation, mais aucune condamnation. Donc là, vraisemblablement...
Oui, en détention préventive, pourrions-nous dire, Emmanuel Dupuis.
Il est en détention préventive avec quand même deux articles de la Constitution qui sont bafoués, puisque l'article 27 de la Constitution précise que tout citoyen et a fortiori tout candidat a droit à la présomption d'innocence, et l'article 74 que tout candidat, là précisément c'est écrit noir sur blanc, doit garantir une égalité de traitement pour les candidats. Je dis ça parce que lors des trois débats télévisé, et peut-être que ce qu'il faut retenir aussi de ce scrutin, c'est qu'il y a quand même eu un exercice démocratique. Hein, on l'évoquait, hein, 26 candidats, enfin 26 bulletins de vote, 24 candidats, un foisonnement de partis politiques. Il y a actuellement près de 216 partis politiques en Tunisie, et puis trois débats télévisés de bonne tenue, de bonne facture, qui se sont déroulés sous l'égide de la chaîne publique, montrant qu'il y a une vraie appétence pour la chose politique. Donc Nabil Karoui apparaît totalement à l'opposé de ce que représente Kaïs Saïd, puisque Nabil Karoui est beaucoup plus laïque, apparaît comme plus populiste, ou en tout cas se veut et revendique sa proximité avec le peuple, justement pour casser le système.
Il semblerait, mon cher Emmanuel Dupuis, vous allez me dire que cette proximité avec le peuple, voilà, ce que beaucoup d'électeurs tunisiens aiment chez Nabil Karoui, c'est le fait qu'il va beaucoup dans des régions très reculées de la Tunisie qu'il fait des dons. Et il semblerait qu'il s'est engagé sur ce chemin après un drame personnel. Il aurait perdu son fils en 2016, c'est bien ça, Emmanuel Dupuis ?
Oui, absolument. Mm-hmm. Alors, je dis pas qu'il y a une transgression de sa propre souffrance et donc justifiant son investissement ou son plus fort investissement, mais il y a volontairement de sa part un investissement en dehors du champ politique. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il a été plus facilement attaqué que les autres. Hein, sur les 26 autres candidats, il y avait d'autres candidats qui auraient pu, selon les chefs d'accusation ou selon ce que l'on reproche à M. Karoui, aussi être mis en examen. Enfin, plus que mis en examen, puisqu'il a été, lui, incarcéré pour ne pas le permettre de faire campagne. Donc, évidemment, il y a cette dimension personnelle. Et puis, derrière chaque homme, il y a une femme, si j'ose dire, en l'occurrence la sienne, et qui joue un rôle très important. Et d'ailleurs, son nom va être de plus en plus présent dans les débats politiques, c'est Salwa Smaoui, donc c'est l'épouse, qui est par ailleurs la présidente de Microsoft Afrique, et qui a joué un très important rôle, non pas de substitution, mais de porte-parole de son mari, d'expression de ce qu'elle-même représente, venue du monde des affaires, pour essayer de sortir la Tunisie de l'ornière financière qui est la sienne. Je rappelle que les FMI évoquent le fait que la Tunisie ne peut pas porter le lourd fardeau, comme je rappelais, l'augmentation de la dette durant l'année dernière a augmenté de plus de 40%. Donc ce vote et ce qu'exprime le couple Karoui s'inscrit vraiment un petit peu dans cette volonté double premièrement, de penser que la Tunisie ne se joue pas seulement à Tunis et à fortiori à Tunis Nord, donc les quartiers, entre guillemets, les plus huppés, mais que la Tunisie est un pays dont 11 millions d'habitants, qui est diverse. Et un des autres clés de lecture de ce qui s'est passé hier, c'est le fait que dès que vous sortez de Tunis, ben vous avez un vote qui est nettement plus radical, et là aussi particulièrement anti-système. Nabil Karoui fait la majorité de ses voix en dehors de Tunis.
C'est très clair. Merci Emmanuel Dupuy. On nous reste quelques minutes. On a un auditeur quand même qui patiente au standard, c'est Christian. Et je redonne le numéro si vous voulez poser des questions. 33 1 55 07 58 00. Christian, bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour Christian, merci de votre patience. Alors, quel regard portez-vous sur ce premier tour des élections en Tunisie? Vous comprenez ce rejet de la classe politique traditionnelle?
Oui, le rejet montre qu'ils ne parlent pas le même dialogue. Mais vu la manière dont ils sont arrivés à organiser l'élection, il faut saluer et il faut confirmer que la démocratie est au retour dans ce pays.
Il n'y a pas eu de fraude, c'est ce que vous dites.
Non.
Bon. Merci Christian de votre participation. Emmanuel Dupuy, je reviens vers vous. On parlait peut-être de sociologie du vote. Hein. Il semblerait qu'effectivement, peut-être c'est ce que disait Sophie Bessy sur un média concurrent ce matin. L'historienne disait que finalement, c'était les gens les moins éduqués qui avaient été plus votés pour Nabil Karoui. Et ceux qui étaient plus éduqués avaient voté pour Kais Saied. Est-ce qu'il y a cette séparation peut-être entre les différentes sociologies du vote?
Alors oui, ma collègue Sophie Bessis a parfaitement raison, en y ajoutant d'ailleurs une césure ou une appropriation géographique. Non seulement ce sont les moins éduqués, mais ceux qui sont le moins inclus dans la croissance, ou la faible croissance, mais croissance tout de même tunisienne. Donc de ce point de vue-là, effectivement, les plus nantis, les plus favorisés, ce qu'on appelle la Tunisie émergente, celle de la côte ou celle de Tunis Nord, ont eu tendance à voter pas forcément que pour Kais Saied, mais pour voter pour tous les partisans d'une forme de système sclérosé, mais de maintien d'une certaine façon de ce système.
Je ne dis pas que Kais Saied... Plutôt conservateur, on va dire, pour le nom.
Disons, un vote plutôt conservateur. Et même si Kais Saied se présente comme progressiste, mais disons que... étymologiquement, on peut quand même le classer dans le camp conservateur. Et évidemment, de l'autre côté, Nabil Karoui, ou d'autres candidats, comme Moncef Marzouki, qui lui prônait la représentation de la Tunisie du Sud, celle qui est délaissée, celle qui n'apparaît jamais dans les statistiques internationales. Là, évidemment, il y a cette césure est forte. D'ailleurs, votre auditeur a raison de dire qu'il faut se réjouir de la bonne tenue de ce scrutin. Il y avait de très fortes préoccupations sécuritaires. D'ailleurs, la Tunisie avait déployé plus de 70 000 forces de sécurité pour que, in fine, ce vote qui politiquement était un petit peu atrophié par la politique traditionnelle ne soit pas un vecteur ou ne permette pas aux organisations terroristes de mener des attentats. D'ailleurs, l'Algérie n'était pas en reste. Elle avait massé près de 35 000 soldats à la frontière, craignant que ce scrutin puisse être l'occasion de mener des actions terroristes.
Il y a la question de la sécurité en Tunisie, vous l'avez rappelé à l'instant, on parlait beaucoup aussi de la situation économique. Pourquoi, Emmanuel, ce sera peut-être ma dernière question, pourquoi l'économie tunisienne a du mal à se relever de la révolution de 2011?
Bah, premièrement, parce que depuis la révolution de 2011, il y a eu des attentats. Il y a eu l'attentat du Bardo, il y a eu l'attentat de Sousse, et donc forcément, et puis il y a eu des attentats régulièrement, que ce soit contre les forces de sécurité ou contre des personnalités tunisiennes, qui ont fait que derrière cette aspiration à la modernité et à la démocratie, qui est une réalité, il y a eu une assemblée constituante qui a donné naissance à une constitution qui est très inclusive, qui respecte le droit des minorités, qui évidemment fait la part belle à l'égalité entre les hommes et les femmes, vieille tradition bourguibienne. Mais derrière tout ça, il y a une crise économique qui a été aggravée par évidemment le manque à gagner touristique suite aux attentats qui ont montré à quel point les forces de sécurité étaient incapables de faire face à la menace terroriste. Deuxièmement, il y a l'impact des crises du voisinage. Évidemment, la crise libyenne, évidemment la crise institutionnelle en Algérie, et on peut rajouter aussi le fait que la Tunisie n'a pas forcément été aidée autant qu'elle aurait dû l'être par la communauté internationale. La meilleure preuve en est que l'Union européenne, qui aurait dû être aux côtés de la Tunisie, n'a fait rien d'autre ou rien de mieux que de mettre en place ce qu'on appelle l'ALECA, l'accord de libre-échange complet et approfondi, qui, de l'avis de tous, va encore plus approfondir les différences géographiques entre la Tunisie du Nord et la Tunisie du Sud et de l'intérieur. Va encore plus favoriser la centralisation bureaucratique que pourtant le FMI dit qu'il faut rompre en évoquant le fait que la Tunisie doit se séparer de 150 000 emplois publics. Donc une des causes pour laquelle les citoyens ne se reconnaissent pas dans le système politique actuel, c'est qu'on n'a pas forcément adopté des méthodes révolutionnaires suite justement à cette... Je le dis plus précisément, économiquement, il n'y a pas eu de révolution, alors que politiquement, il y avait une aspiration au changement.
Merci beaucoup Emmanuel Dupuis de nous avoir apporté ces précieux, vos précieux éclairages sur ce premier tour de la présidentielle en Tunisie. Je rappelle que vous êtes consultant et président de l'IPSE, c'est l'Institut en prospective sécurité en Europe. Merci encore à vous Emmanuel Dupuis. Merci à tous de votre écoute, à défaut de votre participation. N'hésitez pas à continuer le débat sur la page Facebook, facebook.com/journaldesauditeurs. On peut recevoir aussi des messages sur Twitter, c'est @jauditeurs. Et puis bien sûr, on attend vos messages sur le répondeur d'Africa Radio. Le numéro, c'est le 33 1 55 07 58 05. On se retrouve demain, mardi, pour une nouvelle édition du Journal des Auditeurs. Nous parlerons du mouvement Arlene Mbok, c'est au Sénégal, pour la transparence de la gestion du pétrole. À demain.